Ce soir, j'aimerais proposer une réflexion sur Sati, la pleine conscience ou la présence ou l'attention, la vigilance. Vous l'avez maintenant. C'est le cœur du chemin, c'est un des facteurs de l'éveil, c'est une des facultés qui devient pouvoir, c'est une qualité centrale dans le chemin intérieur, parce que tout ce que nous entendons, le Bouddha nous encourage à vérifier, et nous le vérifions dans notre expérience. Et cette pleine conscience, lorsque nous la développons, elle est d'abord le point de départ. C'est maintenant. Est-ce que je suis là? Mais c'est aussi ce qui se cultive, se développe et s'approfondit au fil des retraites, au fil des gouttes de présence que nous lâchons dans notre baquet. Et c'est le point final. Au fond, nous n'avons rien d'autre que l'instant. Simplement, nous ne le réalisons pas. Et cette petite histoire d'un gamin qui demande à son papa, un maître zen, mais dis-moi ce que c'est l'éveil. Puis son papa lui dit, mais casse-moi pas les pieds. Mais allez, dis-moi. Puis pour finir, il en a un peu marre. Alors il dit, bon, ben, je vais te le dire. C'est comme si pour entrer dans une maison, on montait sur une échelle, qu'on fracassait les volets, qu'on cassait la vitre, pour se rendre compte une fois qu'on est dedans que la clé était sur la porte. Et c'est un peu ça, tout est là maintenant. Mais nous ne le savons pas. Souvent, nous ne le savons pas. Quand le Bouddha parle de ces fondements de la présence, il y a 4 fondements. Le premier, c'est le corps. Le deuxième, c'est cette sensibilité humaine qui fait que nous vivons les choses sous forme d'agréable, désagréable ou neutre. Il y a une attirance, un élan, ou au contraire un rejet, une mise en arrière. Et souvent, c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste invisible. Nous ne sommes pas au contact, il n'y a pas de contact avec l'expérience. Et le troisième fondement, c'est toute cette mise en mouvement du mental ou du psychomental, ce qui est agréable, désagréable, qui crée des pensées associatives, oh, ça j'aime pas, pourquoi de nouveau ça, et des constructions. Je vais faire ci ou ça pour retrouver mon confort, mon harmonie. Et tout ça sans vue claire. Ça se passe sans que je sois consciente du processus. Et le quatrième fondement, ce sont tous ces outils de sagesse dont le Bouddha a parlé, pouvoir repérer lorsque quelque chose émerge et qui est désagréable. Ah, mais c'est un obstacle. Lequel des obstacles? Sentez la différence. Si ce qui vient, c'est de la torpeur, ah, ça y est, je suis nouveau dans la torpeur. ou si j'emploie le quatrième fondement à un obstacle, ou l'agitation, ou l'aversion, le doute, ou le désir. Et quand nous avons une attaque de colère ou d'inquiétude, d'angoisse, nous pouvons faire référence aux quatre vérités nobles. Ah, c'est dukkha. Des fois, il y a dukkha. C'est pas mon problème, c'est pas ma faute, c'est pas, il n'y a pas une erreur quelque part. Mais quelquefois, l'angoisse émerge. Waouh! Comment faire avec cette vie qui est là, qui est envahissante, qui est douloureuse? Et de nouveau, sentez la différence. Si j'ai comme point référentiel la sagesse, c'est dukkha. Juste maintenant, j'expérimente la première vérité noble. Parfois, il y a souffrance. Quand c'est chez l'autre, ça me navre beaucoup, mais ça me touche quand même moyennement. Mais quand c'est chez moi, waouh! De même, si vous pratiquez la méditation et que l'expérience est très très bonne, là je suis bien concentrée, ça va durer longtemps, je suis là, j'y suis. Si votre point de référence c'est plutôt, ça c'est un facteur de l'éveil, l'esprit est bien concentré. La différence est énorme parce que dans un cas, il y a une identification et une perte de présence et automatiquement une priorité au mental qui cherche un bon karma. Mais lorsqu'il y a présence, il n'y a pas tellement de quête de bon karma. Il y a plutôt un réel intérêt pour le maintenant. Ah, c'est comme ça. Et c'est la seule chose qui nous sauve. C'est la seule chose qui permet de rester unifié, connecté, relié. Quand le Bouddha parle de la pleine conscience, il dit ces quatre fondements que sont l'observation du corps ou la présence au corps, la présence au ressenti, la présence à ce processus où tout d'un coup je suis dans des monstres constructions, j'ai même pas vu comment ça avait commencé, mais j'ai de l'intérêt, je vais regarder. Ah, ça s'est fait comme ça. Ah, puis maintenant je suis là. Et ce quatrième fondement qui est un autre système référentiel, qui est beaucoup plus universel, qui n'est pas... C'est toute la différence entre le psychologique, tout à fait nécessaire et utile, et le spirituel. Dans le psychologique, on s'intéresse au moi. Moi, mon histoire, mes problèmes, mes schémas. Dans le spirituel, on s'intéresse au schéma, je dirais, universel. On a tous des schémas. Ok, je vais voir lequel est le mien, mais ce n'est pas tellement le schéma qui est important, c'est le fait que je sois là et que je repère, et en repérant, ça lâche prise. Donc ce quatrième fondement qui contient différentes, je ne vais pas aller beaucoup là-dedans maintenant, on ira durant la retraite, différentes qualités de sagesse, les quatre vérités nobles, les obstacles, les facteurs de l'éveil, les cinq agrégats, les six bases qui forment l'expérience. Tout ça est conditionné. Je crois que c'est moi qui suis en train d'enseigner. C'est pas du tout moi qui suis en train d'enseigner. Il se trouve que je suis conditionné. Si vous n'étiez pas là, j'enseignerais pas. c'est tout une toile, pour le coup, interrelationnelle. Pas seulement interrelationnelle, aussi liée aux éléments, au ton, qui fait que l'expérience peut avoir lieu. Et la présence, c'est ça qu'elle m'amène peu à peu, c'est cette libération de tout traduire en termes de moi, créer des drames, des choses exceptionnelles. Ah, c'est tellement bon quand ça lâche un peu. Et le Bouddha parle de ces quatre fondements en disant que c'est le chemin direct pour la purification des êtres, pour la fin des pleurs et des lamentations, pour la fin de la souffrance physique et de la détresse mentale ou psychique, pour la réalisation du chemin de libération du nirvana. Nous sommes donc dans un chemin de purification. Et ce que nous purifions, ce sont ce qu'on appelle les kilesas, l'ombre. Toutes ces émotions perturbatrices qui engendrent de la détresse parce qu'il y a identification. Et avec la pleine conscience, nous apprenons à magnifier l'instant, ou en tout cas à rendre respecter l'instant. Et quand il y a la peur, au lieu de se crisper et puis vouloir vite autre chose, ah non, non, ah, waouh, ok, c'est comment? Créer volontairement la rencontre avec le maintenant. Le doute. C'est comment quand ça doute? La fin des pleurs et des lamentations. Bien voir quand je me lamente, quand je trouve que c'est mal fait chez moi, hein, mais aussi chez l'autre, qu'il faudrait, que pourquoi, que c'est injuste. Je suis en train de me lamenter et sentir la différence entre voir l'esprit qui se plaint, qui trouve que c'est trop long, quand c'est que la cloche sonne. Ah, puis encore la méditation marche. Des fois, l'esprit se plaint. Pas du tout pour lui l'empêcher de se plaindre, mais pour, au contraire, oh, regarde, ça c'est l'esprit qui se plaint. Il aimerait que ce soit autrement, il aimerait tellement. Et là, nous pouvons venir avec la compassion. Je suis sensible à ma peine, parce que c'est moi qui suis en train de créer la souffrance. Il faut bien voir. C'est absolument pas la situation. C'est moi dans ma manière de l'accueillir ou non. La douleur physique, une retraite d'une certaine manière est là pour nous mettre à l'étroit. C'est un choix que nous faisons et c'est, moi je trouve merveilleux parce que nous ne savons pas, mais nous faisons quand même ce choix-là. Et combien le corps donne de lui-même dans une retraite. en acceptant de renoncer à bouger, à faire ce qu'il veut, à penser si possible, à parler. Ce renoncement est quelque chose de très beau parce que au début nous n'en connaissons pas vraiment les fruits consciemment, mais intuitivement oui, je sens qu'il y a quelque chose qui va m'être donné là, et c'est pour ça que je fais l'effort. Et lorsque le corps a mal, de nouveau, voyez la différence si vous dites « Oh, mais je suis sensible à ma paix. J'accompagne cette souffrance. » Ou si vous tenez par exigence, ou si l'aversion vient, mais vous ne voulez pas vraiment la voir. En fait, le bon objet de conscience, ça n'est plus tellement la douleur. C'est la réponse psychologique ou énergétique. Je déteste cette douleur, je la déteste, je ne peux plus la voir en peinture. Ah, je mets ça en lumière. Il y a une forte réactivité. Et de nouveau, c'est à vous de vérifier la différence. Si je dis « Waouh, je suis en pleine réactivité. Oh, ça réagit. » Ou bien si je dis « Réactivité, il ne faudrait pas. » Il y a un vague machin derrière qui dit « Il ne faudrait pas. » Pourquoi ? Parce que nous sommes tellement colorés par nos systèmes de croyances, que je crois qu'il ne faudrait pas. Le système de croyances le plus pernicieux, c'est celui qui dit « j'ai le droit d'être heureuse ». Ah ben non, juste maintenant, je ne suis vraiment pas heureuse, mais alors pas pour un sou. Ok. Comment être heureuse maintenant ? Et si vous pouvez ouvrir la conscience à ce moment extrêmement difficile. Il y a une joie qui est beaucoup plus profonde que n'importe quel bon karma. C'est la joie de l'équanimité. C'est la joie du lâcher prise, du non-moi. La douleur physique. Et c'est à chacun de voir dans cet art de la méditation quand pousser et quand être dans la bienveillance. Et j'aime beaucoup quand c'est Jack Canfield qui dit que la méditation c'est l'art de se tromper consciemment. Trompez-vous plutôt que de questionner mais qu'est-ce qu'il faut faire, comment faudrait que. C'est très bien, ces questionnements spirituels sont très beaux, ce qu'on appelle l'investigation. Mais souvent, ils sont surfaits. Je questionne à mort pour essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a derrière. J'aimerais avoir ce qu'il y a de plus parfait. Alors que le parfait, c'est l'ouverture à l'imperfection, d'une certaine manière. Toujours aller à la rencontre de ce qui crée l'attachement. Une bonne posture, ok, j'ai une bonne posture. Mais pourquoi est-ce que nous voulons avoir une bonne posture ? Est-ce que c'est le regard des autres ? Est-ce que c'est une espèce d'orgueil où le moi a envie, il ne sait pas trop pourquoi. Je me souviens, dans une retraite, j'avais cette espèce de... Il y a longtemps, hein, j'étais contente, j'avais une bonne assise. Eh bien, les forçages, c'était de bouger. Bouger pour aller voir qu'est-ce que c'est que cet orgueil de peu importe de quoi, hein, mais ce sens du moi. Aller observer ce sens du moi quand il émerge. La fin de la souffrance physique. Elle s'arrête de beaucoup de manières. C'est aussi quelquefois en évitant de dire que ça fait mal, mais en allant vraiment sentir l'expérience physique. Et ça peut faire des... Au lieu d'avoir... Parce que c'est le mental qui crée. Hein. Oh, j'ai mal. Il y a une emprise. Ok, ça fait mal, mais je vais voir vraiment comment c'est. Et ça peut faire des vibrations, des lumières, des choses hyper intéressantes. Et c'est la fin de la souffrance physique, en tout cas momentanée. La fin de la détresse mentale ou psychique. C'est tout le travail avec nos systèmes de croyances. Je crois que je devrais être ça, que l'autre devrait être ça. Le sentiment de faute, de culpabilité. C'est pas simple, hein, on est des êtres complexes. Et ces choses viennent. Et dans une retraite, c'est très important de leur faire l'espace parce que tout ce que nous pouvons voir et mettre en lumière dans une retraite aura des conséquences dans nos vies. Des conséquences de confiance, de solidité, de vue claire et même d'éthique. La réalisation du chemin. Nous réalisons le chemin de libération. C'est une réalisation qui ne peut se faire qu'à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que nous sommes si précieux. Et le chemin, il n'est pas... C'est notre chemin de vie. Chaque pas construit le chemin. C'est pas une idée. Nous avons des idées du chemin, mais le chemin lui-même, il se fait pas à pas. Il est en train de se faire. Quand nous partageons, c'est passionnant tout ce qui se passe. Moi, je sais pas ce que j'avais aucune idée de ce que j'allais vous dire. Je savais que j'allais faire ça, mais dans quel sens, je ne savais pas très bien. Voilà, ça vient, et puis qu'est-ce que vous recevez? On dit toujours la même chose. Je ne sais pas combien de fois j'ai enseigné ça à Thie. Eh bien, c'est jamais pareil. Et je m'enseigne en même temps que je vous enseigne. Et des choses qu'on entend qui ne veulent rien dire, tout d'un coup, ça fait tilt. Waouh ! J'ai réalisé. Ça, c'est... Au fond, mon expérience s'est unifiée à des concepts qui résonnaient, mais qui n'étaient pas vraiment intégrés, pas vraiment incarnés. Donc le chemin, c'est en même temps entendre des notions, des systèmes de croyances sages qui mènent à la fin des systèmes de croyances. Ce sont quand même des systèmes de croyances. Mais ils mènent à la fin de ce besoin de s'accrocher. c'est aussi la pratique, sati, je suis là maintenant, et je... il y a ce témoin bienveillant de l'expérience du maintenant. Et bien sûr, pour développer sati, c'est important d'avoir une certaine stabilité mentale. Donc, allez-y, travaillez la concentration. Tous ces commentaires. Ah, commentaires, je te vois. Des fois, ils font leur chemin un petit moment. Il y a une histoire qui dure plus ou moins longtemps. Tout d'un coup, ah, je t'ai vu. Je reviens au corps. Il n'y a pas besoin que ce soit une façon spéciale de revenir au corps. C'est juste être là. Si je sens juste mes mains sur les cuisses, ça suffit. Parce que le corps a une autre... il est plus simple. On ne peut pas me mener en bateau comme le mental. La pleine conscience a ces deux aspects, celui de l'objectivité, je peux voir de plus en plus ce que Milarepa appelle nos démons intérieurs, je n'en ai plus peur, il dit invitez-les à prendre le thé, je les invite à prendre le thé. Donc il y a un côté objectif qui peut dire ah tiens, ah, il y a ça. Et ce qui se développe en parallèle, c'est l'équanimité. C'est-à-dire qu'il y a peu à peu pas un arrêt, mais une appréciation de ce mouvement du moi qui sans cesse aime et aime pas. Des plus petites choses jusqu'aux plus grandes. J'aime les carottes, mais j'aime pas les patates. J'aime l'esprit calme, je n'aime pas quand il est agité. J'aime la vie, je n'aime pas la mort. Ça va jusque-là. Il y a ces préférences qui en fait sont totalement illusoires. Mais nous ne le savons pas, nous y croyons. Nous croyons à nos préférences à mort. Alors que nous sommes ce moi avec ses préférences, oui. Il a à être rencontré, vraiment exploré. Oui, tout ce qui suis-je, ordinaire, humain, limité, est précieux. C'est notre outil de travail. C'est le moi qui devient objet de conscience. Mais en même temps que nous faisons ça, nous nous rendons compte que nous sommes beaucoup, de manière beaucoup plus... profonde, nous sommes ce qui sait être connecté, ce qui sait être relié, ce qui sait recevoir, ce qui sait accueillir. Là, c'était très intéressant il y a quelques mois, pas si longtemps, peut-être 2 mois, j'ai eu une encéphalite. Et l'ordinateur central s'est mis à déconner sec. Alors, Alors, je ne pouvais plus manger d'abord. C'est pas du tout, je mangeais très bien, j'avais aucun problème digestif, mais quelque chose, il y avait des petites bestioles dans le centre de la faim qui disaient « mange pas ». Et puis, j'avais une sorte de sensation, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas. Après, je ne pouvais plus lire, je ne pouvais plus écouter, rien, sauf sous cortisone. À un moment donné, sous cortisone, ah, je pouvais écouter Michel Corbeau. C'était génial. Puis après, plus de cortisone, fini. Je ne pouvais plus, hein. Je me serais abusée grave en forçant. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rien faire. Puis quand je faisais des analyses, on me disait, mais madame, vous allez très bien. Tout va bien. Merci, mais j'étais morte. Pour finir, quelqu'un a découvert ce que c'était, un médecin, quelqu'un m'a fait faire une ponction lombaire, puis on a vu que j'avais plein de leucos dans le cerveau. Et ce qui était intéressant, c'est qu'après, ça a duré encore longtemps, hein, plusieurs semaines, c'est que j'étais toujours connectée. Mais ce qui était dingue, c'est que je ne pouvais absolument pas méditer, c'était la chose la plus difficile à faire, un effort de présence. Je ne pouvais pas. Parce que vraiment, l'ordinateur central était dysfonctionnant complètement. Mais je me sentais complètement bien. Je me sentais complètement connectée. Et c'était vraiment une expérience très bienfaisante de voir comment on n'a pas besoin de créer cette connexion. Elle nous est donnée. Elle est là. En fait, elle est là tout le temps. Juste apprendre à la voir, apprendre à voir combien la conscience individuelle est connectée à la conscience universelle. Parce que c'est quelque chose qui libère de la souffrance du monde. Au fond, c'est ce que nous cherchons vraiment. Développer l'équanimité, c'est important. On aide Sati à cette pleine conscience. Elle est déjà là, parfaite, hein, à l'intérieur, dans ce qu'on appelle l'esprit, dans Chitta. La sagesse aussi, elle est déjà là, complètement toute impeccable. Mais nous l'aidons à se manifester. Elle existe en potentiel et nous l'aidons à prendre sa place à l'intérieur. Et il y a donc comme un mouvement, quand on dit vider et remplir, ça se vide peu à peu de ce sens du moi, inquiet, paniqué, défensif, égoïste, avide. Oh, je t'ai vu, Mimi, maintenant c'est bon, tu peux un peu lâcher. Et alors, ça se remplit d'autre chose, hein, de quelque chose de beaucoup plus tellement bienfaisant, tellement rien, tellement simple, mais tellement assez. Et quand nous travaillons l'équanimité, quand je viens m'asseoir, ok, ça va bien un moment, puis après, oula, ça va moins bien. Ok, comment faire pour être sans préférence? Est-ce que c'est possible? Et ça n'est pas une expérience, c'est une attitude. Si je vois que j'ai des monstres préférences, ah, je vois, je suis sans préférence avec ces préférences. Parce que la pleine conscience, c'est essentiellement une attitude de réceptivité. Plutôt que cette manière toujours de vouloir émettre, avoir, ou bien être ça ou ça. C'est fatigant. Et c'est pas très efficace. Des fois, oui. C'est la différence entre quand le Bouddha parle de Chanda et de Tanha, Tanha c'est l'attachement au bon karma, l'attachement à ce que je veux, et le rejet pour ce que je ne veux pas. Mais Chanda c'est cette aspiration à la libération. Et des fois de faire un effort énorme, parce que mon intention c'est ça. J'ai nommé mon intention c'est la libération. Eh bien, je vais faire un effort énorme. Ça porte des fruits. L'effort héroïque, l'effort qui se souvient du but. C'est Lao Tzu qui dit, si tu veux devenir serein, laisse-toi être tendu. Si tu veux devenir droit, laisse-toi être tordu. Si tu veux devenir plein, laisse-toi être vide. On peut en rajouter, hein. Si tu veux trouver que c'est assez, laisse-toi être mouillé. Si tu veux trouver que c'est... bienveillant, laisse-toi être méchant. C'est terrible d'être méchant. Non, moi, je ne suis pas méchante. Eh bien, ouais, des fois, on est méchant. Et alors, peu à peu, nous nous détournons un peu de l'expérience. Elle devient moins essentielle. Et nous questionnons vraiment, est-ce que je suis là et comment est-ce que je suis là? Et que je sois en train de vivre la plus belle expérience avec Dieu, ou est-ce que je sois en train de vivre le vide existentiel le plus horrible? Eh bien, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est le lien que je crée qui change absolument tout. Donc, développons cette présence. C'est le Bouddha qui dit, la présence sage, c'est le chemin. Celui qui est présent ne meurt pas. Celui qui n'est pas présent est déjà mort. Et c'est très important, hein, quand tout d'un coup je réalise, ah oui, maintenant je suis là. Ah mais avant j'étais pas là. C'est comment quand je suis pas là? On peut vraiment sentir ce manque de vie de l'expérience. Donc, nous sommes en chemin pour rendre le qui suis-je visible, dans ce qu'il a de bon, mais aussi dans ce qu'il a de monstrueux. Pour respecter l'instant, c'est l'instant qui devient important, c'est pas tellement le but à atteindre. Et pour développer cette équanimité où la conscience devient spacieuse. Et il y a cette espèce de paradoxe où en même temps je m'intéresse au qui suis-je de manière très précise, très intime, mais j'y suis pas coincée. Je le fais avec beaucoup d'espace. Parce que, ok, c'est ce qui suis-je là, mais ça pourrait être n'importe quel qui suis-je. Non, on a tous des peurs, on a tous de l'avidité, on a tous des... On est tous un peu monstrueux, par moments, et merveilleux à d'autres. Je crois Suchito qui dit, la pleine conscience n'est pas concernée par le fait d'avoir ou de ne pas avoir quelque chose, Elle est concernée par le fait de parfois avoir quelque chose et parfois pas, et de toujours pouvoir l'observer. C'est cela qui permet l'éveil de la sagesse. L'effort sage, c'est l'effort de concentration de manière à permettre à la présence d'être efficace. Ça ne sert à rien de trop tout regarder si nous n'arrivons pas à rester sur un objet de conscience. Là, nous avons vraiment à travailler la concentration. Avec les paroles de Metta ou juste avec le souffle. Certains font un scan corporel, pourquoi pas. Il y a plusieurs techniques de concentration. Et ça permet vraiment cette stabilité de l'esprit qui après peut purifier, parce qu'il a suffisamment de force. Et ça passe de l'un à l'autre. C'est ça aussi l'art de la méditation. Se questionner, est-ce que j'ai besoin de concentration ou est-ce que là c'est bon d'ouvrir? Des fois c'est clair. Des fois moins, c'est égal. Je vais finir avec une parole de Thich Nhat Hanh. Nous pouvons faire de chaque instant le plus merveilleux instant qui soit. Pour y arriver, il nous faut arrêter. Arrêter de courir après l'avenir, de nous préoccuper du passé. Vous êtes libre, vous êtes vivant. Ouvrez les yeux, appréciez autour de vous la beauté du soleil, du ciel et des enfants. La présence vous aide à devenir ce qu'il y a de meilleur en vous. Calme, vivant, solide, libre et clair. Capable d'apprécier l'instant présent et d'y voir le plus beau de votre vie. Je vous propose qu'on apprécie l'instant pendant un moment en silence.